Chapitre 9, mardi 8 décembre, midi. Simone regarde par la fenêtre du métro. Elle transpire après avoir quitté l'appartement et couru jusqu'à la station. Le train s'est arrêté à Uvutsta. Elle se dit qu'elle aurait dû prendre un taxi, puis tente de se convaincre qu'il ne s'est rien passé, qu'elle s'inquiète pour en rien, comme toujours. Elle regarde de nouveau son téléphone. La femme bizarre avec qui elle a parlé plus tôt était-elle la maman d'Aïda? Et avait-elle raison quand elle disait qu'Aïda se trouvait chez un tatoueur au centre commercial de Tensta? Les portes se ferment mais se rouvrent immédiatement. Des cris proviennent de l'avant. Les portes se referment et le train se remet enfin en mouvement. Un homme assis en face d'elle froisse son journal. Il rassemble les feuilles, les déplie sur le siège voisin, semble comparer quelque chose, les replie. Dans le reflet de la fenêtre, elle voit qu'il la lorgne de temps en temps. Elle envisage de changer de siège, mais se ravise quand un tintement de son téléphone lui indique qu'elle a un message. C'est Ylva à la galerie. Simone n'a pas le courage de l'ouvrir. Elle avait espéré que ce serait Eric. Elle ne sait plus combien de tentatives elle a déjà faites, mais elle essaie une nouvelle fois son portable. Écoute les sonneries sourdes et le transfère vers la boîte vocale. « Hé !» dit l'homme en face d'elle d'une voix insistante et agaçante. Elle fait mine de ne pas l'entendre, regarde par la fenêtre et fait semblant d'écouter son téléphone. « Allô ?» dit l'homme. Elle comprend qu'il ne compte pas laisser tomber avant d'avoir capté son attention. Comme tant d'hommes, il ne semble pas comprendre que les femmes ont leur propre vie, leurs propres pensées, qu'elles ne vivent pas uniquement pour boire leurs paroles. « Eh, vous n'entendez pas quand je vous parle ?» dit l'homme. Simone se tourne vers lui. « Je vous entends parfaitement, » dit-elle d'une voix calme. « Alors pourquoi vous ne me répondez pas ?»«
Je vous réponds, là. »
Il cligne deux fois des yeux, puis s'assort.
« Vous êtes une femme, n'est-ce pas ?»
Simone déglutit et se dit que c'est typiquement le genre d'homme qui compte la forcer à lui donner son nom, sa situation familiale, et enfin la pousser à devenir très désagréable.
« Vous êtes une femme !»«
C'est tout ce que vous voulez savoir ?»
demande-t-elle sèchement en se retournant vers la fenêtre. Il change de siège et vient s'installer à côté d'elle.
« Écoutez ça, j'avais une femme, et ma femme... »
Simone sent quelques postillons atterrir sur sa joue.
« Elle était comme Elizabeth Taylor, » poursuit-il. « Vous savez qui c'est ?»
Il secoue son bras.
« Vous savez qui est Elizabeth Taylor ?»«
Oui, » s'impatiente Simone.
« Bien sûr que je le sais. »
Satisfait, il s'incline en arrière.
« Elle avait toujours de nouveaux Jules, » se lamente-t-il. « Elle voulait toujours plus, des bagues en diamants, des cadeaux, des colliers. »
Le train ralentit et Simone s'aperçoit qu'elle doit descendre. Ils sont à Tensta. Elle se lève, mais il lui barre la route.
« Faites-moi un petit câlin, je veux seulement un petit câlin. »
Elle s'excuse, serre les dents, dégage son bras et sent une main sur ses fesses. Au même moment, le train s'arrête. L'homme perd l'équilibre et retombe lourdement sur son siège.
« Pute !» dit-il très calmement dans son dos.
Elle quitte le train, sort de la station de métro en courant, traverse le pont couvert de plexiglas et dévale l'escalier. Trois hommes éméchés, à la voix rauque, discutent sur un banc devant le centre commercial. Simone se précipite par l'entrée principale et tente de nouveau de joindre Eric sur son portable. Une odeur entêtante de vin répandu émane du magasin d'alcool d'État. Haletante, elle passe en hâte devant la vitrine d'un restaurant, aperçoit un buffet avec du maïs en conserve, des morceaux de concombre et des feuilles de salade fanées. Au cœur du centre se dresse un grand panneau listant les magasins. Elle le scrute jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Tensta Tattoo. D'après le plan, le magasin doit se trouver en haut, tout au fond. Elle court en direction des escalators. Slalom entre des mères en congé maternité, des retraités qui se tiennent par le bras et des adolescents qui sèchent les cours. Elle s'imagine des jeunes rassemblés autour d'un garçon allongé par terre.
Elle se voit fendre la foule en réalisant que c'est Benjamin, que le sang ne cesse de couler du tatouage à peine ébauché. Elle grimpe l'escalator 4 à 4. Au moment d'atteindre le dernier étage, un mouvement suspect dans un recoin désert attire son attention. On dirait que quelqu'un est suspendu par-dessus la balustrade. Elle s'avance et, à mesure qu'elle approche, elle distingue plus clairement ce qui se passe. Deux enfants en tiennent un troisième au-dessus du vide. Une grande silhouette tourne lentement autour d'eux, tapant ses bras sur son corps comme s'il se réchauffait devant un brasero. Les enfants qui tiennent la fille pétrifiée au-dessus du vide ont le visage serein.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
crie Simone en avançant vers eux. Elle n'ose pas courir par crainte qu'ils ne prennent peur et ne lâchent la fille. Elle ferait une chute d'au moins 10 mètres jusqu'au rez-de-chaussée du centre commercial. Les garçons la voient et feignent de laisser tomber la fille. Simone pousse un cri, mais ils maintiennent la fille et la remontent ensuite lentement. L'un d'eux adresse à Simone un sourire énigmatique avant de prendre la fuite avec son copain. Seul, le grand garçon reste là. La fille sanglote, accroupie contre la balustrade. Le cœur battant, Simone s'arrête et se baisse vers elle.
« Ça va ?»
La fille secoue simplement la tête sans dire un mot.
« Il faut qu'on aille voir l'agent de sécurité, » explique Simone.
La fille secoue de nouveau la tête. Tout son corps tremble. Elle se recroqueville contre la balustrade. Simone regarde le grand garçon trapu qui les observe, immobile. Il est vêtu d'une doudoune sombre et porte des lunettes de soleil noires.
« Tu es qui ?» lui demande Simone.
Au lieu de répondre, il extirpe un jeu de cartes de sa poche et commence à les feuilleter, à couper et à battre.
« Tu es qui ?» répète Simone, haussant le ton. « Ces garçons sont des amis à toi ?»
Il reste imperturbable.
« Pourquoi tu n'as rien fait ? Ils auraient pu la tuer !»
Simone sent l'adrénaline envahir son corps, son pouls s'accélère dans ses tempes.
« Je t'ai posé une question, pourquoi tu n'as rien fait ?»
Elle le regarde fixement. Il ne répond toujours pas.
« Imbécile !» crie-t-elle.
Le garçon commence à reculer lentement. Quand elle le suit pour ne pas le laisser s'échapper, il trébuche et fait tomber son jeu de cartes par terre. Il baragouine quelque chose et dévale l'escalator. Simone se retourne pour s'occuper de la gamine, mais elle a disparu. Simone longe les galeries en courant, là où les magasins sont vides et éteints, mais elle ne voit ni la fille ni les garçons. Elle continue et s'aperçoit brusquement qu'elle se trouve devant la boutique de tatouage. La vitrine est recouverte d'un film noir cloqué et d'un grand dessin de Fenrir le loup. Elle ouvre la porte et entre. Le magasin semble abandonné, les murs fourmis de photographies de tatouage. D'un regard, elle en fait le tour et s'apprête à ressortir quand elle entend une voix aiguë et anxieuse.
« Nick, t'es où ? Dis quelque chose !»
Un rideau noir s'écarte et une fille sort avec un téléphone portable collé à l'oreille. Elle ne porte rien en haut. Quelques fines gouttes d'eau coulent sur son cou. Son visage est concentré et inquiet.
« Nick !» dit la fille d'une voix calme. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Les seins à l'air, elle a la chair de poule, mais elle ne semble pas se soucier d'être à moitié nue.
« Je peux te demander quelque chose ?» dit Simone.
La fille sort du magasin et se met à courir. Simone la suit jusqu'à la porte quand elle entend quelqu'un derrière elle.
« Aïda !»
crie un garçon d'une voix inquiète. Elle se retourne et voit Benjamin.
« Où est Nick ?»
demande-t-il.
« Qui ?»« Le petit frère d'Aïda. Il est un peu attardé. Tu l'as vu dehors ?»«
Non, je... »«
Il est grand, avec des lunettes noires. »
Simone retourne lentement dans le magasin et s'assied sur une chaise. Aïda revient avec son frère. Il s'arrête devant la porte, les yeux agrandis par la peur. Il hoche la tête à tout ce qu'elle dit, puis s'essuie le nez. La fille rentre, se couvre les seins d'une main, passe devant Simone et Benjamin sans leur accorder un regard, et disparaît derrière le rideau. Simone a juste le temps de remarquer des rougeurs sur son cou. Elle a une rose rouge foncée tatouée à côté d'une petite étoile de David.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demande Benjamin.
« J'ai vu des garçons, des cinglés. Ils tenaient une fille par-dessus la balustrade. Le petit frère d'Aïda était planté là. Tu leur as dit quelque chose ?»«
Ils se sont arrêtés quand je suis arrivé, mais ils avaient l'air de trouver ça drôle. » Benjamin semble très gêné. Il rougit, son regard erre, cherche autour de lui, comme s'il voulait se sauver.
« Je n'aime pas que tu traînes par ici, » dit Simone.
« Je fais ce que je veux.
Tu es trop jeune pour... »«
Arrête !»
l'interrompt-il en baissant la voix.
« Pourquoi ? Tu avais l'intention de te faire tatouer, toi aussi ?»«
Non.
Je trouve ça affreux, ces tatouages sur le cou et sur le visage. »«
Maman,
c'est laid. » »«
Aïda entend ce que tu dis. »
Mais je trouve...
Tu peux sortir ?
Dit Benjamin d'un ton cassant. Elle le regarde, se dit qu'elle ne reconnaît pas l'intonation de sa voix, même si elle sait pertinemment qu'Éric et elle se parlent de plus en plus souvent sur ce ton.
Tu rentres avec moi, dit-elle calmement. Je viens si tu sors d'abord.
Simone sort de l'échoppe et voit Nick près de la fenêtre sombre, les bras croisés sur la poitrine. Elle s'approche, adopte une attitude avenante, et désigne ses cartes Pokémon.
Tout le monde préfère Pikachu, dit-elle.
Il hoche la tête.
Mais moi, j'ai un faible pour Mew, poursuit-elle. Mew apprend des choses.
Je suis navré d'avoir crié.
Personne ne peut battre Wailord. Il est invincible, c'est le plus grand.
C'est le plus grand de tous?
Oui,
répond le garçon d'un air sérieux. Elle ramasse une carte qu'il avait perdue.
C'est qui ?
Benjamin sort les yeux brillants.
Arceus,
réplique Nick en posant la carte sur le dessus.
Il a l'air gentil,
dit Simone. Nick fait un grand sourire.
On y va, dit Benjamin à voix basse.
Au revoir,
sourit Simone.
Au revoir, à bientôt,
répond Nick machinalement. Benjamin marche en silence à côté de Simone.
On prend un taxi,
dit-elle, tandis qu'il s'approche de la bouche de métro.
« Je n'en peux plus du métro. »«
D'accord, »
dit Benjamin en faisant demi-tour.
« 1 minute. »
Simone vient de reconnaître l'un des garçons qui menaçait la fille. Il est près des tourniquets du métro et semble attendre quelque chose. Elle sent que Benjamin la tire vers lui.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
demande-t-elle.
« Viens, on y va, on veut prendre un taxi.
Il faut d'abord que je lui parle. »
« Maman, laisse tomber !»
implore Benjamin. Le visage blafard, anxieux, il reste planté sur place tandis qu'elle se dirige vers le garçon d'un pas résolu. Simone pose la main sur l'épaule du garçon et le tourne vers elle. Il ne doit pas avoir plus de 13 ans, mais plutôt que de prendre peur ou d'être surpris, il ricane comme s'il lui avait tendu un piège.
« Tu vas venir avec moi voir l'agent de sécurité, » dit-elle d'un ton déterminé.
« Qu'est-ce que t'as dit, vieille peau ?»
Je t'ai vu quand tu...
Ta gueule !
Interrompt le garçon.
Il vaut mieux que tu fermes ta petite gueule, si tu veux pas qu'on t'encule.
Simone est si abasourdie qu'elle ne sait quoi répondre. Le garçon crache par terre devant elle, saute les barrières et disparaît lentement dans les couloirs du métro.
Estomaquée, Simone rejoint Benjamin.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Rien,
souffle-t-elle. Ils se rendent à la station de taxi, et s'installe à l'arrière de la voiture de tête. En s'éloignant du centre commercial de Tensta, Simone dit que l'école a téléphoné.
Aïda voulait que je l'accompagne pour faire modifier un de ses tatouages,
dit Benjamin d'une voix faible.
C'était gentil de ta part.
Ils avancent en silence dans la rue de Julstavegen, recouverte de gravier brun et bordée de portes de garage rouillées.
Est-ce que tu as traité Nick d'imbécile ?
Demande Benjamin.
J'ai eu tort. C'est moi l'imbécile.
Mais comment tu as pu ?
Je fais des erreurs parfois, Benjamin,
dit-elle doucement. Du pont Traneberg, Simone regarde en bas vers l'île Stora et Singen. Il n'y a pas de glace, mais l'eau semble pâle et endormie.
Papa et moi allons sans doute nous séparer,
dit-elle.
Ah ? Pourquoi ?
Ça n'a absolument rien à voir avec toi.
J'ai demandé pourquoi.
« Il n'y a pas vraiment de réponse, »
commence-t-elle.
« Ton père... »
« Comment t'expliquer ?»«
Il est l'amour de ma vie, mais ça fait... »« Ça peut prendre fin malgré tout. On n'y pense pas quand on se rencontre, quand on a des enfants et... »« Mais je ne devrais pas te parler de ça. Je voulais simplement que tu comprennes pourquoi je suis complètement désorienté. Enfin, ce n'est pas sûr qu'on se sépare. »«
Je ne veux pas m'en mêler. »«
Je suis désolé de... »«
Laisse tomber, »
la rabroue-t-il.